Urgente, dames et seigneurs, les médiévales de Saint-Ursanne reviennent les 11, 12 et 13 juillet prochains avec pour thème les inventions. Plongez au cœur du Moyen-Âge et vivez tournois de chevaliers, spectacles de feu, troubadours, danse médiévale, marché artisanal et bien plus encore. Profitez de la prévente dès maintenant et vivez la fête en toute noblesse grâce aux transports publics locaux et leurs avantages tarifaires. Infos et billets sur médiéval.ch.
Libre, il va tenter son bac de philosophie. C'est clairement le cas le plus jeune de l'histoire des bacs. Le précédent record daté de 2023 et c'était une jeune fille âgée de 12 ans. À noter également que la personne la plus âgée inscrite au bac français cette année est âgée de 78 ans, 70 ans de plus.
Est-ce bien sérieux ?
As-tu vu, je suis là ?
Sur Radio Chablais.
Radio Chablais. Programme de nuit.
Wow. C'est chaud.
Sur le grill. Oh,
au musée suisse du jeu, pour parler de la nouvelle exposition Planète Jeu, la planète Terre en jeu. C'est une Christiane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur ici du musée suisse du jeu. Planète Jeu, c'est quoi, c'est comment et c'est pourquoi?
Alors Planète Jeu, c'est une exposition qui explore les liens entre les jeux, l'histoire des jeux et la nature. L'environnement. On avait envie de poser cette question, de montrer aussi que les jeux sont des objets culturels qui nous renseignent sur notre rapport au monde, qui nous renseignent sur l'état de notre société, nos imaginaires collectifs, et on le fait ici en lien avec cette question de la nature et de l'environnement.
C'est-à-dire, comment ça se passe? On est vraiment dans l'exposition. Alors, j'ai devant moi des jeux que j'imagine pas les plus récents.
Non, effectivement, ouais, on commence avec une dimension historique. Donc on retrace vraiment tous les jeux qui thématisent cette question de la nature et de notre rapport à la nature pour voir comment, dans les jeux, sont envisagés, mis en jeu des modes d'interaction avec la nature et voir comment ils ont évolué au fil du temps, au fil des millénaires. Donc on commence avec une série de jeux qui est très ancienne. Donc les plateaux que vous voyez ici, ce sont des plateaux de Mankala. C'est une famille de jeux qui a plus de 1500 ans. C'est des plateaux alvéolés hein, avec des trous. Dans lesquels on sème des graines. Et en fait, quand on joue au Mankala, alors le plus connu, c'est l'Awele, qui est un jeu encore très populaire en Afrique de l'Ouest. On va récolter des graines et on va les semer. Et dans ce jeu, il y a aussi une morale. C'est-à-dire qu'on peut pas, par exemple, affamer son adversaire, on peut pas lui prendre toutes ses graines. Et s'il en a plus, on est obligé de le nourrir. Donc on voit déjà à travers le jeu et les règles du jeu comment ces jeux-là, ces Mankala, nous renseignent sur nos modes d'interaction avec la nature.
Et puis l'état d'esprit, et en plus se dire que on joue depuis toujours en fait. Dans l'âme de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, on a toujours joué.
Alors c'est sûr, hein, des jeux de règles et des jeux de plateau, on en a qui ont plus de 5000 ans. Donc effectivement, c'est cette dimension-là. Et cette question de la nature, en fait, depuis l'avènement de l'agriculture vraisemblablement, c'est une thématique qui peut être utilisée pour construire des systèmes de jeux.
Étape suivante, Naturomania, Selim, qu'est-ce qui se passe ici?
Alors là, on avance un peu dans le temps et on s'intéresse dans cette pièce Naturomania aux jeux de société modernes, donc aux jeux de société à partir des années 1950 et à la manière dont ils thématisent la nature. Donc là, on a une sélection d'une trentaine de jeux qui portent sur la thématique de la nature. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir comment, en fait, les modes d'interaction avec la nature ont évolué dans les jeux. On peut prendre un classique du jeu de société suisse comme Wildlife, par exemple, que vous avez peut-être dans un vieux placard au chalet ou auquel vous avez peut-être joué chez vos grands-parents. En gros, Wildlife, donc c'est un jeu de la fin des années 1960 dans lequel on joue des gestionnaires de zoos et on va faire le tour du monde en bateau et on va capturer des animaux sauvages pour les mettre dans son zoo et gagner le plus d'argent possible. Donc vraiment une sorte de Monopoly sauvage. Et donc là, on voit qu'en fait, le mode d'interaction avec la nature, on est vraiment sur un modèle dominant de la prédation, de la chasse, de la capture.
Et je me marrais parce que ça me faisait vraiment penser, même si c'est pas drôle, mais on est typique, fin des années 60. Et c'est là que c'est intéressant parce que vous transposez les époques avec les jeux, les mentalités avec les jeux.
C'est ça, c'est un des buts de l'exposition, hein, montrer que les jeux c'est aussi sérieux, enfin on peut s'en servir comme toute production culturelle pour analyser la société et son fonctionnement. Et donc Wildlife, ça c'est un exemple, une photographie comme ça de la fin des années 60. Et si on s'intéresse aux jeux plus contemporains, on a vraiment une grande diversité aujourd'hui de jeux qui proposent d'autres modes d'interaction avec la nature. Alors là on a par exemple Wingspan, qui est un des grands classiques du jeu de société contemporain, un jeu à succès, dans lequel vous allez gérer une volière. Et donc là, vous vous occupez d'animaux, vous devez les attirer, vous devez en prendre soin. on est dans une logique très différente. Harmonise, un peu plus loin, un très joli jeu de plateau, aussi contemporain, où vous devez reconstituer des biomes naturels, donc vous avez différents types de territoires que vous devez composer pour ensuite attirer des animaux dans votre territoire et répondre à leurs besoins.
On voit l'évolution donc des mentalités et forcément donc l'évolution des jeux. On fait une petite pause musicale sur Radio Chablais, puis on continue à se balader au musée suisse du jeu. À tout à l'heure.
C'est chaud. Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud. Sur le grill.
Toujours au musée suisse du jeu, en immersion dans la nouvelle exposition Planète Jeux avec le directeur Céline Krishan. Alors là, Céline, on est près d'un... Alors on est dans les jeux vidéo, hein, on a l'ambiance
juste à côté comme ça.
Et puis ça, c'est un jeu de pêche et il y a vraiment le module de la canne à pêche à faire tourner.
Ouais, tout à fait. Donc là, on est dans la salle La Nature en jeu vidéo. On présente une sélection d'une dizaine de jeux vidéo qui... présente tout un éventail de modes d'interaction avec la nature. Alors là, effectivement, il y a le modèle de la prédation hein, sur ce jeu de pêche et juste à côté un jeu de chasse où on reconduit des activités de prédation humaine et sociale dans des jeux vidéo. Mais les jeux vidéo, ils nous offrent aussi tout un autre éventail de modèles d'interaction avec la nature qu'on présente ici. Donc il y a des jeux dans lesquels on va soigner la nature, comme dans Abzu ou Terranil là-bas, des jeux où on va habiter des territoires ou encore des jeux où on va incarner des animaux et voir, ressentir le monde à travers les yeux d'un lynx, par exemple, ou d'un renard polaire.
Incroyable aussi, comme justement la nature est utilisée hein, dans différents modes de l'humanité, dans les jeux et autres, sous différentes formes, que ce soit, comme vous l'avez dit, de la prédation ou au contraire de la prévention. On va à une prochaine pièce ?
Avec plaisir.
Rappelez aussi qu'on peut jouer, hein. Par exemple les jeux vidéo là ils sont vraiment interactifs, il y a d'autres jeux aussi ici à disposition pour jouer. On reste aussi toujours dans cette nouvelle vision depuis quelques années du musée suisse du jeu, entre guillemets participative, immersive.
Ouais, c'est le but vraiment, on a envie que nos expositions soient jouables et donc on fait cet effort où on a dans l'exposition plus d'une vingtaine de jeux vidéo qui sont jouables, que vous pouvez tester, prendre en main, découvrir, et pas mal de jeux de société aussi, les mancalas aussi qu'on a vu tout à l'heure. On a toute une salle dédiée à la découverte des règles où on peut jouer à ces mancalas.
Génial. On est ici dans quelle pièce ? Moi je vois SimCity, ça me rappelle des souvenirs. Satisfactory également, on est où ?
Alors ici, c'est la pièce « Exploiter la planète », où on présente une sélection de jeux, à la fois des jeux de société et des jeux vidéo, qui renvoient à un imaginaire extractiviste, donc une logique où, pour gagner, il faut extraire des ressources, conquérir des territoires, parfois exterminer les autres et accumuler des ressources. Et c'est vraiment un imaginaire par rapport à la planète qui est dominant dans les jeux du XXe siècle.
L'humanité dans toute sa splendeur, effectivement. Donc dans cette pièce-là, puis ensuite, alors, où on sait qu'on se dirige ?
On va aller par là-bas.
Dernière étape de cette interview. On rappelle le musée suisse du jeu qui vous accueille pour cette nouvelle exposition Planète Jeux. Questionner la crise. Là, on va commencer à se poser des questions. Là.
C'est là qu'on commence à se poser des questions, effectivement, et avec des jeux à partir des années 70-80 qui vont thématiser très explicitement la question de la crise climatique ou de l'écologie. Donc c'est ces jeux qu'on présente ici, comme le magnifique Pollution-Solution que vous avez ici en vitrine. Aussi des jeux de simulation de gestion de crise planétaire plus contemporains, comme Daybreak ici, qui est un jeu de plateau dans lequel on joue des grandes puissances mondiales et collectivement, on doit essayer de régler la crise climatique en faisant des choix stratégiques, sociaux, politiques.
Au final, cette exposition Planète Jeux, elle va, de par le jeu, de par notre imaginaire, de par l'envie quand même de se rappeler des bons souvenirs, se poser aussi des questions, et puis de nouveau se questionner sur comment va notre planète et quel rapport on a à la planète.
C'est un des objectifs de l'exposition, effectivement, mais à travers le jeu, tout à fait. On est d'abord dans la question de la thématisation de la nature, qu'on a vu dans les premières salles, et puis gentiment, on va vers des questions plus contemporaines, et on termine l'exposition sur la question de l'empreinte écologique des pratiques ludiques. Donc, qu'est-ce que ça a comme empreinte concrète environnementale que de jouer à des jeux de société ou à des jeux vidéo aujourd'hui ?
C'est-à-dire ?
On va le voir ?
On y va. Dernière étape. Ah, et là on comprend mieux quand on arrive effectivement dans la pièce où on voit nombre de cartons partout, nombre de livraisons que ça représente, les transports et ainsi de suite entre la production et la livraison et l'utilisation.
Ouais, tout à fait. Donc comme toute pratique sociale ou culturelle, hein, c'est la pratique du jeu sous toutes ses formes a un impact environnemental qu'on voit assez peu parce qu'on est dans une pratique du divertissement. On n'est pas non plus dans une pratique critique. Hein, et le but, c'est pas d'alarmer ou de diaboliser la pratique du jeu. Évidemment, c'est une pratique qui a beaucoup moins d'impact que le trajet en avion, par exemple. Hein. Mais on avait quand même envie de questionner cette dimension-là de cette pratique culturelle. Dans le jeu de société, donc là, on présente une série de tableaux, notamment sur des pratiques qui posent question d'un point de vue environnemental, comme cette tendance contemporaine des jeux de société à produire des jeux dits legacy. Donc les jeux legacy, c'est des jeux qui fonctionnent en campagne et qui sont faits pour être joués qu'une fois, dans lesquels vous allez souvent altérer le matériel de jeu, ouvrir des enveloppes, déchirer des cartes, rajouter des annotations. Certains industriels parlent de jeux Kleenex, parce que c'est des jeux, voilà, une fois que vous y avez joué une fois, c'est difficile de les prêter, c'est difficile de les revendre ou de les réutiliser.
Donc on se souviendra toujours que le mieux c'est le jeu comme j'avais chez grand-maman, les jeux qui sont durables le plus longtemps possible, qu'on peut réutiliser énormément. Toutes ces questions qui se posent ici, intéressantes, et qui nous permettent aussi de réfléchir à un autre mode de consommation de jeux. Mais bon, l'essentiel, ça restera toujours de jouer en fait. Je rappelle le site internet du Musée Suisse du Jeu et les réseaux sociaux.
Musée du jeu.ch.
Merci beaucoup.
Merci.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles ?
Sur Radio Chablais.
Caroline avec nous ce matin à nouveau et comme régulièrement pour une nouvelle chronique. Bonjour.
Mais bonjour, bonjour.
De quoi qu'on parle ce matin ?
Alors, est-ce que tu connais le sixième sens féminin ?
Je connais le film Sixième Sens. C'est un autre domaine.
Mythe ou réalité, hein?
Ah oui.
Alors, il y a des neurobiologistes qui ont longtemps cru que l'intuition que l'on attribue aux femmes était due à une utilisation plus fréquente du cerveau gauche que les hommes.
Ah tiens.
Et que du coup, vous étiez beaucoup plus rationnel parce que vous utilisez plutôt le cerveau droite.
Ouais, bien sûr. Ça, c'était des scientifiques qui avaient été cherchés très loin.
Ouais.
Pas du tout macho.
Non,
misogyne.
Absolument pas. Mais ils en sont revenus parce que, alors c'est vrai qu'on a des cerveaux de différentes tailles et en fonction des sexes, ça a été prouvé quand même qu'il y a certaines zones cérébrales qui travaillent plus que d'autres.
Mais
la structure du cerveau, elle est modifiée selon l'usage que l'on en fait. C'est peut-être pour ça qu'on a tendance à dire que justement les femmes sont plus à l'aise pour les tâches ménagères ou j'en sais rien, mais c'est des choses qui se sont inscrites sur la durée et dans le temps. Par exemple, il y a une étude qui a été réalisée sur les taxis londoniens, sur les personnes qui sont candidats à être taxi, et ils ont réalisé que en fait la région du cerveau qui est impliquée dans la mémoire, c'est l'hippocampe, augmente de volume parce qu'en fait, il mémorise les noms des 25 000 rues de la capitale anglaise.
Et quand on fait travailler la mémoire, on la stimule, et alors ça, si on peut le dire, on a presque l'impression que c'est un muscle parce qu'effectivement, il évolue en fonction du travail qu'on lui donne.
Ouais, moi je pense qu'il ne doit pas avoir grand-chose chez moi. Ça sonne creux.
Ah, toi aussi, c'est ça, hein? T'as mangé quoi hier? Oula,
Les cerveaux féminins ou les cerveaux masculins n'ont pas vraiment de différence naturelle, n'en déplaise à certains. Après, c'est tout dépend de l'usage qu'on en fait.
Égalité forever. Merci.
À bientôt.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Blanc. Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Nicolas Yoz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Swiss Wine Promotion, la promotion des vins suisses. On va évidemment parler de ces missions avec vous aujourd'hui. On s'est donné rendez-vous à Saint-Trifon. Je suis dans une vieille ferme vigneronne du Chablais. Pourquoi ici ?
C'est ma maison de naissance, puisque j'ai fait toute mon enfance ici. Je suis né officiellement à l'hôpital d'Aigle, mais j'ai fait toute mon enfance et mes écoles ici dans le Chablais. C'est la maison familiale que mes parents habitent encore aujourd'hui et qui a été aussi mes grands-parents avant, etc.
Ça veut dire un domaine viticole autour ?
Agricole et viticole, avec un peu environ un demi-hectare de vignes qui est là depuis les années, fin des années 30. Et puis, mon grand-père à l'époque était exploitant agricole avec de la grande culture principalement et du bétail, qui a évolué. Aujourd'hui, il n'y a plus de bétail. La grande culture et les terrains sont exploités par d'autres paysans, puisque mes parents ne sont pas du tout agriculteurs. Ils ont juste gardé la viticulture pour le plaisir et la transmission, on va dire, de génération en génération.
Ça sera votre... vous allez reprendre cela?
Alors oui et non, c'est pas du tout viable en l'état. C'est surtout, eux, ils sont avant tout des producteurs de raisins qui fournissent une grande cave et un petit producteur. On produit depuis 2010 une petite cuvée familiale pour la symbolique d'un terroir. J'ai continué cette tradition, mais ça ne reste bien sûr plus un hobby, un plaisir avant tout.
Bon, ça vous donne. Moi, je vous ai connu alors à l'Office des vins vaudois, puis secrétaire général du Mondial du Chasselas, maintenant Swiss Wine Promotion.
Mondial de Bruxelles.
Mondial de Bruxelles, oui, pardon, je les confonds. Mondial de Bruxelles qui se tenait à Aigle sur les terres du Mondial du Chasselas, mais évidemment une autre envergure. Alors, ça vous a fait baigner justement dans cet univers de la vigne et du vin depuis que je vous connais. Avant ça, il y a eu d'autres expériences, mais cette connaissance intime de ce qu'est le métier de la terre, de ce qu'est la vigne, ça a mis une direction à votre vie, à votre carrière?
Alors, initialement, j'ai commencé...
Intime et précoce,
hein, ouais, l'enfance. Précoce. Ouais. Alors, je pense que j'ai eu la grande chance depuis le début de toucher, de goûter à toute cette culture vitivinicole, puisqu'enfant, on traînait dans les vignes régulièrement, on participait aux vendanges, on participait aussi avant, aux effeuilles principalement. On nous mettait un tout petit peu déjà dans le bain. Mais j'ai pas choisi cette filière quand j'ai fini mon école obligatoire. J'étais très passionné de cuisine. J'ai eu la chance de faire un apprentissage de cuisinier avec un complément en sommellerie à Villars-sur-Ollon, à l'Hôtel Victoria à l'époque, avec un chef qui était appelé Joël Quentin, qui était quelqu'un exceptionnel. Il était très connu surtout pour les herbes sauvages, la maîtrise des herbes sauvages. C'était une super équipe, une belle brigade.
Ça a été très à la mode, enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, hein, mais je me souviens de la panne des Bossettes dans le canton de Fribourg, qui était renommée pour ça. Il y a eu toute une tendance comme ça à la fin des années 90.
Complètement, avec
aller chercher ces herbes dans la nature.
Le grand précurseur, c'était François Couplan, qui était le botaniste de renommée et qui a accompagné tous ses chefs. Et j'ai eu la chance, fin des années 90, de faire l'apprentissage avec Joël Quentin, qui m'a initié aussi à ça et qui m'a fait continuer l'envie de cuisiner. Je me suis déjà aussi beaucoup intéressé à ce moment-là à la sommellerie. Et puis, l'histoire a fait que j'ai pu partir à Genève faire mon école hôtelière, qui m'a aussi ouvert d'autres portes, d'autres ouvertures, qui m'a incité aussi à une autre découverte de l'hôtellerie-restauration. Et tout en gardant un lien avec le vin, toujours passionné, je dégustais énormément. Je prenais même dans mes vacances officielles et mes pauses, je prenais vacances en octobre pour venir faire les vendanges. Pour venir faire les vendanges, pas que dans la famille, mais également dans une cave qui est une amitié aujourd'hui, qui est Bernard Cavé, qui m'a toujours dit viens comprendre, viens
des
faire.
Grands noms du terroir chablaisien.
Voilà, exactement. Et je venais prendre 2 semaines, 3 semaines de vacances pour travailler à la cave, pour comprendre le millésime. Et c'était toujours été une passion. Je l'ai fait pendant 6-7 ans.
Vous n'êtes pas parti, hein. Souvent, l'école hôtelière, ça mène à Singapour, à Santiago du Chili.
L'envie était là. Ouais. Le marché, à ce moment-là, était radicalement différent. Et donc, j'ai eu une opportunité de partir à Gstaad, en sortant de l'école hôtelière. Ce qui était très dépaysant et surtout un intérêt. Je me souviens, à l'école hôtelière, lorsqu'on avait dit, il y a une opportunité, peut-être Gstaad, ça intéresse quelqu'un. Il n'y avait pas grand monde qui levait la main, j'étais un peu le seul, et parce que c'était la peur de ben ça va être en allemand, ça va être c'est du suisse allemand, du berndeutsch, ça va aller. Et j'ai dit, on est là pour apprendre et pour développer. Alors, c'est sûr que ça m'a beaucoup développé mes langues, ça m'a beaucoup développé aussi ce mélange culturel. Et je devais y aller pour 5 mois, j'y suis resté 3 ans et demi. Donc,
bon,
voilà.
Ça a donné une ligne capitale. Vous venez d'aborder les langues, hein. Aujourd'hui, vous travaillez en Suisse alémanique, vous travaillez à Berne. Swiss Wine Promotion est un organisme national, donc forcément, vous pratiquez l'allemand au moins autant que le français, j'imagine, et l'anglais, oui.
Je pratique 3 langues nationales sur 4 et l'anglais en plus. La chance
dans
aussi
dans le métier, je veux dire.
Dans le métier, ouais. Faut pas oublier. Alors,
le
Tessin et les italophones, mais pas seulement. Il faut penser aussi que sur les marchés internationaux, on n'a pas toujours une qui parle l'anglais, donc on a aussi des variations. Mais nous parlons et dans le bureau en français comme en allemand avec l'ensemble de mon équipe, puisque même si le vignoble est majoritairement francophone et latin, l'ensemble de la clientèle et de nos partenaires sont majoritairement germanophones. Donc,
bon, le vin dans sa mise en valeur, hein. C'est un peu votre étiquette depuis que je vous connais, utilisant ce mot d'étiquette, après tout on est dans le vin, hein. L'Office des vins vaudois, puis les expériences suivantes, c'est vraiment on a un terroir, on sait ce qu'il vaut, on va essayer de le mettre en valeur. Voilà, ça pourrait presque être écrit sur la porte de Swiss Wine Promotion, c'est le job.
C'est une partie du job. Avant de dire juste le mettre en valeur, il faut qu'on a aussi un changement de société qu'on doit prendre en compte et on doit arriver vers du consommateur, pas juste goûter cet terroir, mais prenez le temps de goûter quelque chose. On a un changement de société qui a radicalement changé avec les générations et la promotion des vins suisses et la promotion régionale, parce que c'est exactement une déclinaison, elle doit aussi changer de cap et pas juste dire c'est un bon terroir, goûtez-le. Non, prenez le temps de découvrir ce que c'est que du vin, qu'est-ce que c'est qu'un produit issu de la vigne. Et ça, c'est quelque chose qui a manqué énormément dans une nouvelle génération. On a tendance à préjuger en disant les jeunes ne consomment plus comme nous, comme les anciens. C'est vrai, mais ils consomment pas beaucoup moins, ils veulent consommer différemment. Et donc, ils ont surtout besoin de découvrir, qu'on les éduque un tout petit peu à cet art, cette culture vitivinicole.
C'est un besoin qui est exprimé ou vous estimez qu'ils ont besoin de ça pour y venir ?
C'est un besoin qu'on a analysé. On a étudié énormément aussi les consommateurs. On a besoin de comprendre si nos actions de promotion, elles sont porteuses, si ce qui est produit, imaginé, correspond et a un impact. Et à cette réponse, on régulièrement, tous les 3-4 ans, on fait des études de consommateurs et on a le signal assez fort de plus en plus qu'aujourd'hui la jeune génération cherche différemment et veut juste comprendre pourquoi on défend aussi cette culture vitivinicole et que c'est pas simplement une belle carte postale sur le bord du lac. C'est pour y arriver, il y a un travail de vigneronne et de vigneron et c'est ça qu'ils ont besoin, c'est une soif de connaissance avant tout, avant une soif de liquide.
Alors, en amont de vos études fines, il y a un constat, c'est celui de la baisse de quantité consommée par les Suissesses et les Suisses, et je pense que c'est une tendance européenne.
Totalement.
Mais je n'en sais rien, voilà, vous
totalement
confirmez.
Mondial.
Voilà, alors les ministères de la Santé diraient que c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, je ne sais pas si ça se répartit sur d'autres alcools, si c'est la diversité qui fait ça, ou s'il y a quand même un changement lié à la santé, à tout ce qu'on entend.
Il y a plusieurs facteurs. Il y a une réalité, c'est que la prévention contre la surconsommation de produits alcooliques est extrêmement forte et justifiée et porte ses fruits, puisqu'on voit qu'une des préoccupations premières du consommateur qui ne consomme même pas de vin, c'est pour des problèmes de santé. Donc bravo et tant mieux, parce que ça montre aussi qu'on est préoccupé par rapport à ça. Mais le vin ne fait pas partie de ce secteur-là. Le vin n'est pas une boisson alcoolique. Le vin contient de l'alcool. Vous avez entre 12 et 14% d'alcool dans du vin. Donc inversement, vous avez quand même un volume d'autres liquides bien plus important. La diminution de la consommation, c'est aussi des habitudes courantes aujourd'hui. Vous allez à midi dans un restaurant de village manger un plat du jour, vous allez pouvoir compter le nombre de personnes qui peut-être prendront un verre de vin. Il y a 20 ans en arrière, combien de personnes ne prenaient pas une bouteille ? On a un changement d'habitude et de société. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre conscience. Donc les produits qu'on a proposés évoluent également. Et puis, ce qu'il faut prendre aussi en compte, peut-être en plus, avant tout, c'est que ce que les vins, les types de vins qu'on consommait hier, ne sont plus les vins qu'on consomme aujourd'hui ou demain. On voit des trends très importants, le rosé aujourd'hui ou les mousseux sont devenus extrêmement à la mode, alors que dans les régions comme la Suisse, on avait peu d'habitudes sur ce type de produit. Et j'aime toujours me rappeler...
Même méprisé à un moment donné les rosés.
C'est exactement, je vais vous dire, ouais. C'est exactement ça. C'était le nombre de vignerons et vignerons que j'entendais. Ah, je fais du rosé, mais bon, j'aime pas ça. Mais justement, il ne faut pas en faire si vous ne l'aimez pas. Ouais. Faites ce que vous aimez parce qu'on va le ressentir dans le produit. Et aujourd'hui, on a des jeunes générations qui nous font des rosés exceptionnels parce qu'ils sont passionnés de ça. Et tant mieux. Et on a plaisir, nous, à les faire découvrir parce qu'on va le sentir à la fin. Le produit n'est pas un simple liquide. Le produit est une émotion. Et donc, on le sent de A à Z s'il a été fait avec plaisir, avec amour ou s'il a été fait par obligation.
Bon, on va revenir hein, sur toutes ces notions-là dans la deuxième partie de cette émission. Swiss Wine Promotion, c'est 6 régions viticoles, j'ai vu. Hein. On considère la Suisse alémanique comme une région. Vaud, Valais, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le Tessin?
On va les prendre dans l'ordre, comme ouais. Ça on est.
Ça, vous êtes sûr de pas.
Voilà, pas les oublier. La plus grande région, c'est le Valais, suivi du canton de Vaud. En troisième région, on parle donc de Suisse alémanique, où on regroupe les 18 cantons suisses alémaniques ensemble, au niveau de la structure interprofessionnelle. Suivra après le canton de Genève, le canton du Tessin et la dernière région, c'est la région qu'on appelle Trois Lacs, qui regroupe le canton de Neuchâtel, le Vuy, le canton du Jura et la partie bernoise, le Billersee, la partie du lac de Bienne, qui est rattachée aux Trois Lacs, malgré que c'est le canton de Berne. C'est un peu une différence entre la zone de Spitz, au bord du lac de Spitz et de Thun, et de Brienz, qui est rattaché à la partie suisse-allemannique, alors que le bord du lac de Bienne est rattaché aux trois lacs.
Ah, c'est très précis tout ça.
C'est très bien pensé.
Quand on a passé des années comme vous à défendre les vins vaudois, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez changé de job? Vous avez dû faire un petit lavage de cerveau? Vous vous êtes dit, il ne faut pas que je favorise mes anciens petits?
Ah, ce n'est pas des petits, on va être très honnête, ils ont une tradition millénaire.
Petit, pas dans le sens petit, dans le sens protégé. Voilà.
Je pense que c'était aussi une des craintes peut-être aussi de mes collègues des autres cantons puisqu'on on se côtoie régulièrement dans les commissions de coordination nationale. Il dit oui, mais si c'est Nicolas, est-ce que ça va être différent? Et je pense que mes deux ans au concours mondial m'ont apporté beaucoup cette séparation. J'ai vu un regard totalement différent, une approche où c'est pas la région qui m'intéresse, c'est l'authenticité de chaque région qui devient importante. Et l'expérience des vins vaudois m'a formé énormément pour justement apporter aussi cet équilibre entre les régions, parce que peut-être les gens ne le savent pas, mais dans le canton de Vaud, il y a également des grandes nuances dans les vins, mais aussi dans les personnages du vin selon la région viticole. Nous avons toujours un peu des fois des tensions, des regards différents entre la plus grande région en surface, qui est la région de la côte, face aux deux régions à peut-être une notoriété différente, que sont Lavaux Patrimoine Mondial ou le Chablais. Et on oublie souvent les régions du Nord Vaudois qu'on négligeait un tout petit peu par le passé, qui ont des pépites extraordinaires, que soient les Côtes de l'Orbe, le Bonvillard ou le Vuy canton de Vaud, qui est roupé aujourd'hui avec le Vuy fribourgeois. Mmh. Donc il y avait déjà cette tension, donc je reprenais un peu le même schéma avec un mélange là, contre deux langues, deux types de cépages et de cultures totalement différentes.
Culture du vin différente ?
Culture du vin différente, puisque ben, les habitudes en Suisse alémanique, par exemple, ne sont pas tout à fait les mêmes qu'au Tessin ou en Suisse romande. Et on avait, on va dire, les cantons historiques tradition, avec le canton du Valais, le canton de Vaud, qui faisait face à la modernité du canton de Genève, qui s'est réformé il y a très longtemps et qui apporte une diversité incroyable, et la partie alémanique où on a des jeunes générations qui, ben, il n'y avait pas d'historique ou pas de notoriété et qui doivent se défendre face à des traditions.
Bon, c'est étonnant hein, de voir à l'échelon suisse finalement les mêmes soucis que l'Europe avec ses différents terroirs, ses différentes cultures du vin, etc. C'est votre métier, c'est votre passion. On va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Nicolas Lyos, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On parlait de la variété hein, dans ce petit arbre-poste qu'est la Suisse au milieu de l'Europe et a fortiori la Suisse vinicole. Malgré cela, une grande diversité. C'est vrai qu'on a un terroir, j'imagine, qui correspond à une grande région espagnole ou une grande région française. Et puis là-dedans, on a des caractères très différents.
C'est un melting pot de culture et d'habitudes et de cépages pour la Suisse. C'est extraordinaire quand on a plus de 250 cépages référencés en Suisse, près du.
Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, pour la promotion, parce que je voyais ça de deux façons. Hein. D'un côté, il y a voyez la richesse et la diversité, puis de l'autre, il y a quand même une difficulté à mettre.
C'est une grande difficulté, tout à fait, parce que. Le fait, c'est qu'on a des petites productions pour chaque cépage. Alors, les 252 sont pas tous en production en vinification. On a environ pas tout à fait 90-95 cépages qui sont en production pour faire du vin. Mais même ça, c'est moins difficile. Alors, si vous avez des cépages internationaux et classiques, c'est un peu plus simple. Mais lorsque vous allez dans des cépages indigènes, et là, le canton du Valais en regorge énormément, ça devient vite une complexité pour sortir ces cépages hors de sa zone. Mmh. Par manque de disponibilité, par aussi difficulté d'explication aussi aux consommateurs. On a des cépages, il faut pas l'oublier, qu'on a supprimés avec le temps parce qu'on considérait qu'ils étaient plus commercialement justes ou difficiles à produire. Alors que et maintenant, on a un effet en arrière. On revient avec des cépages indigènes historiques, ce qui, personnellement, moi, me réjouit. Je pense que la Suisse doit être fière de ce qu'elle a et pas toujours copier toujours ce que les autres ont fait. J'aime beaucoup les cépages du monde entier, mais j'avoue que quand on est en Suisse, les gens qui veulent goûter la Suisse, ils veulent goûter le cépage du terroir. Bon, des chardonnays, on en a partout dans le monde. Ils sont seulement très bons en Suisse, Mais très honnêtement, une petite aravine est bien supérieure à beaucoup de nos chardonnays en Suisse. Il faut sortir de notre identité. Ça, c'est la marque la plus difficile aujourd'hui.
On a cette particularité, hein, je le disais, d'un terroir petit, en plus très varié. Donc, on ne peut pas dire le Riesling suisse, comme on peut le dire pour l'Alsace. On ne peut pas dire tel cépage, c'est notre cépage. Et puis, on a cet îlot de Cherté, qui est la Suisse, hein, au milieu de l'Europe. Donc, ça cumule un petit peu les difficultés. J'ai regardé les quantités, alors vous me direz si c'est juste, on est à peu près à 100 millions de litres hein, par année dans une année pleine, dont 99% est consommé en Suisse, ou en tout cas 1% seulement est exporté. Hein. On éponge les 99%?
Alors, les années difficiles, comme on vient de vivre 2024, avec une vendange à 75 millions de litres, donc on est 25% dessous d'une année pleine, fausse radicalement aussi la consommation. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on produit en dessous de notre capacité pour maintenir un marché. Donc, il est difficile aujourd'hui de commercialiser du vin. Mais la réponse aussi, c'est de faut prendre les questions. Pourquoi on a de la difficulté? Il y a pas mal de choses qui sont face à nous. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure diminution de la consommation, une consommation qui change. On a aussi des défis climatiques très importants, aussi à gérer la production. Et on a des habitudes et une concurrence étrangère qui est toujours bien là. Et vous parlez d'îlot de Cherté, il faut le prendre dans les deux sens. C'est pas qu'à produire, c'est surtout un consommateur suisse qui est prêt à payer un certain prix pour des produits. Donc l'attrait de l'importation est important parce qu'on produit beaucoup moins cher dans nos pays limitrophes, principalement pour les vins d'entrée de gamme. Et donc les marges sont extrêmement importantes pour les distributeurs. Donc tout d'intérêt à vendre des produits d'importation parce que les marges sont meilleures.
Pas le jeu, hein. On a tous dans nos boîtes aux lettres des journaux avec des promotions insensées sur des vins espagnols, français, italiens, etc. Quand ils ne viennent pas de beaucoup plus loin, Chili, Afrique du Sud...
C'est là où je joue pas le jeu et envie de dire peut-être c'est au consommateur de changer un tout petit peu le cap parce que un revendeur à un moment s'il a acheté un lot et il n'arrive pas à le vendre il va arrêter de l'acheter
plus.
Donc c'est au consommateur à faire ses habitudes et à peut-être à changer ses habitudes. Aujourd'hui on a une société qui doit radicalement prendre un cap beaucoup plus éthique et beaucoup plus durable. Et quand on parle de durabilité, c'est pas que de l'écologie, c'est aussi du social par le prix d'achat auprès du producteur. Et c'est la raison économique, la dernière. Mais je venais sur le social, ce qui est assez incroyable, je ne pense pas que le consommateur lambda, lorsqu'il achète une bouteille à 5 francs dans un grand distributeur parce qu'il est en action à 70% de rabais, il pense à un moment que peut-être c'est le bon prix auprès du producteur. Et ça, c'est une question aujourd'hui qu'on n'a pas pour le vin.
Et ceux qui travaillent chez le producteur.
Et ceux qui travaillent, exactement. On a vraiment cette sensation-là. En Suisse, on a des normes, des salaires minimaux pour l'agriculture qui sont déjà très bas pour vivre en Suisse. Mais au moins, il y a un vrai salaire
décent. 3 000 francs par mois.
3 400
francs. 3 400, oui, c'est ça. 3 400
francs. En comparaison,
en France, 1 500, 1 600.
On est au SMIC, à 1 400 euros, ouais. 1 500 euros. Et en Italie, pour autant, ça dépend des régions, on va être entre 800 et 1 200 euros.
Ouais.
Donc déjà, et ça, c'est quand le collaborateur, il est rémunéré. Déclaré et où à certains endroits du monde, on a des doutes quand même sur ce type de projet. Donc je pense que c'est aussi ça que les gens doivent prendre en compte aujourd'hui. Quand on voit un vin à 5 francs, ben, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et lorsqu'on voit que les vins suisses, certains sont bradés des fois dans ces prix-là par des distributeurs, on ne devrait pas être choqué de payer ce prix-là. Parce que ça veut dire qu'au début de la chaîne, le producteur, il n'a pas été payé.
Avec les abricots, avec toutes sortes
de... Ça ne se limite pas au vin, exactement. Ouais. Ça se limite, c'est tout le produit agricole qui a cette maladie aujourd'hui. Et au final, il ne faut pas oublier, lorsqu'un produit est vendu, le seul gagnant, c'est celui qui vous le vend à la fin. Ce n'est pas celui qui, au début, qui l'a produit. Et ça, on le voit dans tous les produits agricoles.
La proximité, la durabilité par la proximité, c'est le credo aujourd'hui.
C'est fondamental. C'est la
Attention,
proximité.
Parce que j'ai une question qui pique après.
Mais avec grand plaisir. C'est fondamental parce que la proximité, c'est quoi? C'est surtout la traçabilité. Lorsque vous avez des questions, vous avez envie de besoin d'avoir des informations, votre producteur, il est là, il peut répondre à ces questions-là. Lorsque vous achetez un produit qui vient de 7, 8, 20 000 kilomètres, vous n'avez aucune trace. Vous avez peut-être un certificat qui vous dit qu'il y a une norme durable. Permettez-moi dans certains certificats d'avoir des doutes quand même, parce que avant tout, une certification, c'est on paye quelqu'un pour nous le contrôler. On a vu par le passé que c'est pas toujours quelque chose de crédible.
Mais pourquoi alors on va en Chine, au Japon, aux États-Unis pour essayer de maintenir ce 1% d'exportation des vins suisses?
Et alors c'est là l'effet un petit peu bizarre, c'est que pour donner de la crédibilité des vins suisses sur le marché suisse, on a besoin d'être existant sur le marché international. Et c'est donc nécessaire
que nos visiteurs futurs sachent qu'il y a des vins en Suisse.
Et surtout que les médias internationaux, dont la majorité des gens lisent ça, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les magazines imprimés, lisent des reportages sur les vins suisses et aussi répondent à une demande. Parce que c'est un peu bizarre à dire ça, mais on reçoit aussi de la demande d'importateurs, de consommateurs dans certains marchés qui souhaiteraient avoir des vins suisses, principalement des cépages indigènes. C'est là où on revient sur le fait de goûter le goût de la Suisse, en disant ben la Suisse c'est incroyable, on est venu Suisse, on aimerait encore quelques bouteilles, et on doit répondre aussi à cette demande-là. Mais les marchés prioritaires à l'exportation aujourd'hui restent en Europe déjà, en priorité. L'Allemagne, la France, la Belgique sont des marchés pour nous qui sont très importants et qui sont un lien au final avec le tourisme. Il faut voir le lien. Alors aussi.
Justement, vous avez un partenariat avec Suisse Tourisme. Il faut que les vins, et ça tombe sous le sens finalement quand on y réfléchit, fassent partie de l'expérience touristique de la Suisse, comme le beau paysage, comme le bateau sur le lac.
C'est exactement ça. Lorsque vous prenez un client américain ou asiatique qui va venir en Suisse pour un voyage et qui aimerait découvrir et goûter la Suisse, la case vin doit faire partie de l'échiquier. Mais s'il n'en a pas entendu parler une fois ou on n'a même pas parlé dans des supports de promotion, il n'aura peut-être même pas le réflexe de le faire. Et si en plus dans nos restaurants respectifs ou nos hôtels, on n'a pas le réflexe non plus de proposer quelque chose de local, on a loupé une coche.
Ça existe encore ça ? Qui n'est pas que du local, je l'entends, mais qui n'est pas du tout, ça existe ça ?
Alors, de moins en moins, ouais. Je crois qu'il y a une prise de conscience parce énorme de la restauration
j'avais là-dessus. Le mot paradoxalement qui venait, mais ce n'est pas un paradoxe, mais il y a une claire tendance. Aujourd'hui, les vins suisses sont en premier, il y a des choses excellentes, il y a des gens au service qui les proposent, qui les mettent en avant, en tout cas l'expérience client que j'ai moi.
Oui,
bon, c'est peut-être dans nos deux cantons fittis, Nicole, c'est possible.
Mais vous savez, ce n'est pas les meilleurs endroits pour croire que tout est beau et tout est rose.
Ah ouais
j'ai vécu une dernière expérience au cœur du Valais où quand je m'assieds juste pour prendre un verre d'apéritif à 18h30 j'ai dû demander si je peux au moins avoir un vin local, donc j'ai vécu cette petite expérience un peu rigolote et ils en avaient, donc c'était un réflexe peut-être pas inné. Donc il faut pas croire que le canton de Vaud, le canton du Valais c'est acquis par rapport au reste de la Suisse. Ce travail il doit être global. Mais si on prend l'exemple de la restauration, je pense qu'il y a vraiment eu un changement, il y a une volonté aussi de défendre le local. Je viens d'entendre encore un reportage à la radio de vos confrères de la RTS qui faisait un reportage sur un restaurateur de la Riviera et qui avait fait un choix sur un restaurant avec 70 km de distance pour l'ensemble de ses produits et la carte des vins. La question, là aussi, on a respecté cette condition. Donc, ça, c'est nouveau, c'est novateur. Et là, on se rend compte qu'il y a aussi un changement qui est opéré dans beaucoup de restaurateurs. Donc, ça me réjouit aussi que ce travail perdure aussi dans d'autres secteurs. Le mien, d'origine, puisque je viens quand même de la gastronomie avant tout, a pris aussi ce chemin de la proximité.
Bon, j'aimerais qu'on termine, il nous reste quelques minutes sur le climat, vous l'avez abordé, ça fait partie des écueils, des problèmes, ça peut faire partie des opportunités aussi, hein. Après tout, il y a du vin qui pousse en Méditerranée, donc on part pas du principe que c'est la culture la plus en danger avec les quelques degrés qu'on nous promet. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là ? Vous le voyez-vous comme une chance ou comme un écueil ?
Les deux. La difficulté de la durabilité, elle est constante. Je crois qu'aujourd'hui, tous les accidents climatiques qui arrivent avec des problématiques autour de la montagne, autour des fleuves, autour des lacs, des pluies fortes.
C'est ça, des météos plus instables et plus.
Grêle, gel, etc. Ouais. Donc, ça, c'est le côté négatif. Et le côté positif aussi, de retravailler nos cépages peut-être indigènes qu'on avait dit pas assez productifs parce que manque de maturité. Peut-être travailler avec la recherche aussi agronomique. On a la Suisse a un grand centre de recherche sur les cépages hybrides ou qu'on appelle PIWI dans la terminologie interne, qui est un peu protection aux champignons et qui, pourquoi pas, je crois qu'il faut profiter des opportunités. On a aussi des cépages qui ont difficulté aujourd'hui avec la chaleur. La Suisse a un grand défi avec ses pinots noirs, principalement le Valais, l'exemple, de gérer la chaleur du pinot noir, c'est difficile. Ils changent de technique à la vigne, principalement.
Plus les feuilles.
On a, par exemple, il y a les viticulteurs, ça fait des dizaines d'années qu'ils cherchent en réalité. Et donc, moi, j'ai pas peur, ils vont être prêts. D'ailleurs, on n'a aucun vin chez nous aujourd'hui qui sont brûlés. Donc, on voit que nos viticulteurs, depuis très longtemps, ils sont adaptés au climat. Donc il y a une opportunité à continuer ce travail-là, au contraire.
À cet égard-là, on a un projet dans le Chablais, là, c'est Yvonne Grandeur Nature. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, vu de Berne, mis à part l'amitié pour la région que vous pouvez avoir? C'est un exemple,
c'est un magnifique exemple d'initiative régionale. Des fois, on veut trop faire quelque chose de trop national et attendons un régime trop strict de loin, et peut-être trop lointain. Là, c'est une initiative de productrices et producteurs qui ont la même vision, qui s'engagent, qui
pour le rappeler, avec un projet de durabilité globale, hein, dans toutes les strates du métier, finalement, essayer d'aller vers la durabilité.
Voilà, avec une vision qui est la même pour tout le monde. Et puis surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils échangent de ce qu'ils font. Ils se le gardent pas pour eux. Donc c'est une initiative, pour moi, un peu un projet pilote qui est novateur. On en a d'autres comme ça en Suisse, peut-être moins connus parce que c'est peut-être pas dans la région pour Radio Chablais. Mais on a d'autres projets pilotes qui ont été imaginés dans le même état d'esprit. Et nous, on se réjouit. Ça démontre qu'on n'attend pas d'une structure admin des solutions, mais que la production elle-même se prend en main pour développer quelque chose. Et ça, je pense que c'est peut-être la grande différence avec d'autres secteurs économiques.
Bon, les agriculteurs doivent se réapproprier la terre, hein, c'est eux qui savent. C'est important.
Sans eux, on n'est rien.
Bon, j'aimerais qu'on termine. Voilà, c'est un peu moins joyeux, mais c'est vrai que en venant vous voir, j'ai ouvert quelques articles. Je vois que enlever de la vigne pour mettre autre chose, c'est de plus en plus commun. On connaît les problèmes de morcellement de parcelles, de gens qui abandonnent parce que c'est trop dur ou parce qu'il n'y a pas assez de parcelles, etc. Il y a des grandes maisons qui ont des difficultés financières. Comment il va ce monde-là?
C'est exactement l'image qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on a un défi entre ce que l'on produit et ce que l'on consomme. Et alors, en tant que directeur de promotion, on se préoccupe pas de la production. C'est pas notre mission. Notre mission, elle est dans l'image et la volonté de donner envie. Mais c'est vrai qu'on est tout autant préoccupé de ça parce que les producteurs, il faut qu'ils arrivent à nous faire des produits d'exception. Et si le mental n'est pas là, on va le ressentir dans le produit final. La question aujourd'hui est de réguler encore plus la production, soit par les quotas de production, soit par l'arrachage. C'est des techniques qui sont là sur la table et que la production doit choisir quel chemin ils vont faire. Personnellement, je pense qu'il est nécessaire d'adapter un tout petit peu l'offre par rapport à ce que la demande du consommateur et de ses attentes est bien là. Et ça n'empêchera pas d'adapter. Alors ça peut être par de la régulation de production, ça peut être peut-être par de l'arrachage, ça peut être par du remaniement de surface agricole. Ça veut dire que potentiellement une durée limitée, on enlève de la vigne, et on y plante autre chose d'agriculture à la place. Pourquoi ? Simplement pour ce qu'on produit, c'est le top, et ça correspond à des consommateurs.
C'est l'envie, en tout cas, du directeur de Swiss Wine Promotion. Merci à vous, Nicolas Yos.
Mais merci.
Radio Chablais, programme de nuit.
Supplément. Ananas, sur Radio Chablais.
Colline, salut.
Mais bonjour, Loïc.
Colline, est-ce que tu savais que Monté est une ville emblématique du Valais?
Du Valais seulement.
Du Valais seulement. Arrête. Tu penses, non mais j'aime beaucoup, j'aime bien. Non mais en fait, j'ai appris par déduction en lisant le Nouvelliste d'aujourd'hui. Mm-hmm. Parce qu'en fait, il y a Vanessa Paradis, la célèbre comédienne et chanteuse, qui tourne en Valais en ce moment dans le film J'oublierai ton nom, réalisé par Ryan Gonzalez, blablabla. Elle incarne Irène, l'institutrice nocturne. Bon, ok. En fait, l'article, ce qu'il dit, c'est que le tournage de cette coproduction franco-suisse se déroule durant 6 jours et 6 nuits dans plusieurs lieux emblématiques du Valais, comme Viège et Tourtemagne.
Oh, waouh, ça
va en dire. Bon, c'est la Valais Film Commission, qui nous le dit. Hein. Mm-hmm. Et j'ai pas envie de dire des mauvaises choses sur eux. Ils font un job superbe et extraordinaire pour que des productions cinématographiques viennent se tourner en Valais. Mais ils font beaucoup trop bien leur job parce qu'ils citent ces deux bleds de fond de plaine comme emblématiques. Donc voilà, ils savent comment mettre en avant notre commune. Mais tu me diras, déjà Viège et Tourtemagne ne sont pas montés. Alors en théorie, c'est effectivement un bon point. Mais là, dans le contexte, voyons ce que dit Wikipédia. Ouh. Commençons par Viège. Viège, appelée en allemand Wisp, est une commune suisse du canton du Valais. L'origine du nom de la commune est incertaine. L'histoire de la ville de Viège est très étroitement liée à celle de l'évêché de Sion et du canton du Valais. Mais non, sérieux. Oh, déjà, je suis surpris. Hein.
Ouais,
et à part son site chimique qui, je cite, fait régulièrement la une des journaux et suscite l'émoi car des sols contaminés sont régulièrement découverts autour de Viège, il n'y a plus rien sur cette commune sur Wikipédia.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Pour dire.
Surtout contrairement, à, surtout comparé à Tourtemagne. Magnifique Tourtemagne. Appelée en allemand Tourtemagne, c'est une localité, une ancienne commune de Suisse du canton du Valais, située dans la partie alémanique du Valais, dans le district de l'Ouest. Le village marque l'entrée du Val de Tourtemagne, qui se prolonge jusqu'au glacier de Tourtemagne, le long de la rivière Tourtemagne, les plus originaux du Valais et de Suisse peut-être pour trouver des noms. Près du village, nous trouvons un ancien aérodrome militaire construit en 1939 et désaffecté en 2003. Ce lieu sert à des nouvelles activités. Le 1er janvier 2013, Tourtemagne a fusionné avec Unterems, pardon, pour créer la nouvelle commune de Tourtemagne-Unterems.
Waouh.
Là, je t'ai fait toute la page Wikipédia de Tourtemagne. Y a rien d'autre.
Y a rien de plus.
Y a rien de plus. Y a rien de plus.
Ouais. Tourtemagne.
Et c'est quand même emblématique. C'est ça,
ça
qui est beau. Bah, après, il y a deux options. Hein. Soit quand Internet a plus à dire, a plus à dire sur Monté que sur le tien, Patelin, bah, sachant que Monté est à la beauté urbanistique, ce que le FC Sion est à la victoire, disons que la grandiosité en prend un petit coup quand même. Entre nous et l'emblématique, il faut pas déconner, il y a quand même trois districts. Mais ou alors, cela fait de facto de Monté un lieu emblématique du Valais également.
Oh wow.
Et Murat aussi.
Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Tout à fait.
Ça t'a surpris ?
Oui, ça m'a beaucoup surpris.
Y a pas de quoi, bisous.
Merci.
Supplément. Ananas.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Certaines personnes, des fois, ils parlent vite, hein? Et puis des fois, on comprend pas tout ce qu'ils disent, c'est vrai.
Montre voir sur Radio Chablais.
Oh, ça sent bon la nature. Mais qu'est-ce qui fait bon? Le printemps arrive, c'est le moment de jardiner. Montre voir un jardin communautaire. Émilie, on se trouve à Viona. Dis-nous, explique-nous, on se trouve où exactement?
Alors, on est vers la place multiloisirs, l'école, la crèche, la Migros. Point stratégique, vu que les élèves des 1 et 2H de l'école de Viona et la crèche, ils participent au jardin.
Ok, donc communautaire, ça implique vraiment tout le monde ici?
Ouais. Ils ont leur petite parcelle là-bas, je te montrerai après.
Bah, écoute, déjà explique-nous qu'est-ce qu'on a devant nous.
Alors on a plusieurs parcelles au sol, à même le sol. On a au milieu un petit centre, c'est un petit potager d'herbes aromatiques. Là, c'est censé être un escargot, mais il n'est pas en forme d'escargot parce qu'on l'a fait version nous. Voilà. Au fond, on les voit juste pas. Il y a les parcelles justement des écoles et de la crèche. Puis là, tu vois, on est encore dans une parcelle totalement neutre. Puis tu vois, le beau tas de palettes qu'on a là, c'est parce que là, on va faire un jardin surélevé.
Oh, un jardin surélevé, qu'est-ce que c'est ?
C'est que ça nous permettra de jardiner sans devoir se baisser, ce qui va permettre aussi de peut-être pouvoir accueillir des personnes qui ont des problèmes de dos comme ça, vu que c'est vraiment pour tout le monde. Et ils pourront venir jardiner.
Donc ce sera des gros bacs de terre surélevés, simplement, on pourra travailler à hauteur.
Exactement. Enfin, c'est les palettes, du coup, qui feront office de... On va pas mettre des bacs.
Oui. Ah, d'accord. Ouais. On bricole. Mais c'est magnifique, ça. C'était vraiment le but de pouvoir inclure tout le monde ?
C'est le but. On aimerait tout le monde. On a déjà pas mal de choix. Du coup, on a les petits, il y a nos propres enfants. On a des retraités, on a des jeunes. Enfin, on a tous les âges.
C'est beau, ça ?
Oui.
Après, ce qu'ils prennent ceux qui ont des bras cassés comme moi ? Apparemment, oui.
Certaines personnes, des fois, ils parlent vite, hein? Et puis des fois, on comprend pas tout ce qu'ils disent, c'est vrai.
Montre voir sur Radio Chablais.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Ah oh oui, c'est lundi, il va y avoir du sport avec vous Thierry Nicolet, bonjour.
Bonjour Loïc, bonjour tout le monde.
Bon, il y a eu le événement de ce week-end qui était le rallye du Chablais.
Exactement.
Et puis, bah voilà, c'est qui a gagné pour changer?
Ouais, tu sais déjà qui c'est qui a gagné, t'as suivi un peu ça. Exactement, Sébastien Loeb, le grand vainqueur de la 21e édition, 8 ans après son dernier sacre sur cette compétition. On vous en fait un petit résumé. Je suis là pour le fun avant tout. Voici ce que nous avait déclaré Sébastien Loeb vendredi lors de la première journée du rallye du Chablais. À ce moment-là, le Français était déjà en tête du classement général, talonné par Jonathan Hirschi. Seulement, le Neuchâtelois a été contraint à l'abandon dès la première spéciale de samedi, celle de l'AVB, laissant un boulevard au nonuple champion du monde.
La journée bien, malgré une météo pas facile. C'était vraiment des spéciales compliquées aujourd'hui, parce que déjà les spéciales en soi sont pas faciles, mais en plus avec la météo qu'on a eue, des grosses pluies, des coulées d'eau, c'était vraiment piégeux, donc il fallait être bien concentré, pas se faire piéger. Mais finalement on a réussi à tenir, on est resté devant, on a réussi à creuser encore un petit peu l'écart aujourd'hui, et puis c'était une super journée.
Cette Alpine sur la pluie, cette deux roues motrices, comment elle s'est comportée?
Bah, très bien, hein, a priori. Hein, on peut voir que, qu'on gagne à la fin. Donc c'était pas facile partout. On a des spéciales où c'était plus compliqué que d'autres. Certaines spéciales où on arrivait à faire un peu la différence. D'autres où on en perdait. Au final, ça s'est équilibré. Et puis voilà. Donc en tout cas, c'était un bon rallye. C'est sympa de pouvoir finir avec une victoire.
Vous aviez remporté le rallye 2017. Ça remonte un petit peu. Ça fait déjà 8 ans. C'est qu'est-ce que ça vous fait de gagner le rallye du Chablais? Vous avez déjà tout gagné.
Bah, écoute, c'est toujours bien de gagner. C'est toujours plus sympa quand on fait un rallye de gagner. C'est vrai que la priorité quand on vient ici avec Lorraine, c'est de s'amuser. Bon, elle a moins de victoires que moi, donc elle a quand même vraiment envie de gagner. Mais voilà, donc quand on peut finir en beauté, déjà je vais pas me faire engueuler, parce que sinon je me fais engueuler, c'est bien de pas. Donc voilà, non mais c'est top, c'est la cerise sur le gâteau.
Le vainqueur de l'édition 2024, Mike Coppens, a lui pris le deuxième rang à 32 secondes de Sébastien Loeb. Il nous a mentionné avoir vécu un rêve de gosse.
Un rêve de gosse, hein, au final, parce que après, je pense que tout le monde doit dire ça quand tu roules dans le même rallye club, tu te dis que c'est magique de finir avec juste derrière lui et de te retrouver sur le podium avec lui. C'est un truc que j'aurais jamais envisagé. Un rêve de gosse, mais après, si je parle plus de la performance, ben voilà, on n'avait jamais roulé avec cette caisse. Depuis le Valais l'année passée, ça fait 7 mois, on a fait 150 kilos de spécial avant ce rallye, donc c'était rien. Et voilà, on découvre une voiture, on a pris zéro risque, vraiment 0,0 risque, on s'est fait zéro chaleur et puis. On a appris la voiture gentiment, le rallye était très piégeux, on finit derrière le, ben voilà, le tout quand tu dis ça, c'est top quoi. Hier c'était très stressant, typique du Chablais, mais sans la pluie étonnamment, avec des d'humidité, mais sans la pluie, mais avec ce côté stressant du Chablais où t'es là, tu dis mais mince, on va pas pouvoir rouler avec les pneus là, ça va venir la pluie, on est foutu, tu appelles des copains, tu dis est-ce qu'il pleut chez vous, donc c'est ce côté-là qui t'as l'impression que ça te ronge. Et puis aujourd'hui, ben, il n'y avait pas de doute. Aujourd'hui, il y avait des cordes. C'était le déluge, donc c'était en pneu pluie. C'était presque plus facile à gérer. Les conditions de route, elles étaient très difficiles. Mais sinon, à gérer dans la tête, c'était plus facile. C'est le week-end parfait, mais comme je suis un con d'insatisfait, ben, je me fruse déjà. Mais là, je vais quand même essayer de savourer un peu, d'aller sur le podium avec le boss des rallyes. Je vais essayer de savourer un peu avant d'être insatisfait.
Le troisième rang est revenu au prince Albert von Thurn und Taxis. Une performance exceptionnelle, l'Allemand ne connaissant pas les routes du Chablais.
J'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire une troisième place. Je suis vraiment ravi d'être ici et de pouvoir courir ici. Et ces résultats, c'est super, super grand pour nous. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment content.
Vous avez vu hein, sur le rallye du Valais, un mot sur le rallye du Chablais, comment vous l'avez trouvé?
Parce que tout le monde au Valais disait « Tu dois absolument faire le Chablais ». Et alors on a regardé et j'ai vu les épreuves, j'ai vu les onboards, j'ai dit « Ok, on doit absolument venir ». Et on a cherché de le faire fonctionner et grâce à Dieu, on a pu venir. Mais je n'aurais jamais pensé qu'on peut faire un résultat comme ça et je suis au ciel.
Un mot peut-être sur le parcours, il est très varié, il y a des étapes qui sont très serrées, il y en a d'autres un peu moins sinueuses, comment vous l'avez trouvé?
Et c'est incroyable vraiment parce qu'il y a tout, au niveau de l'asphalte il y a tout, au niveau des épreuves, vite, technique, grand rue, petite rue, il y a vraiment tout et c'est vraiment, vraiment difficile et le temps était difficile, il pleuvait, il était sèche, il y avait tout. Et je suis vraiment, vraiment content, notre team a fait un grand, grand, grand travail. La voiture était toujours, nous ont fait travailler entre toutes les épreuves, mais la voiture était toujours top et je suis vraiment, vraiment ravi.
On vous reverra sur le rallye du Chablais.
J'espère bien.
Nous pouvons encore citer que les vainqueurs dans la catégorie des véhicules historiques sont les deux jurassiens Clovis Brosi et Gaëtan Aubry. Les maçons Géroux Dominique et Marie-Laure Udrio se sont imposés en régularité sportive.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On passe maintenant au football, Thierry, avec le Vevey Sport qui a un nouveau président depuis une semaine.
Fatine Drama, 29 ans, est colombé roux et a pris la succession de Cyril Cornu à la tête du club vaudois. Le jeune homme a de nombreux projets pour le club, dont la première garniture évolue en Promotion League, la troisième division nationale. Fatine Drama commence par nous expliquer ce qui l'a motivé à se lancer dans l'aventure.
Pour revenir sur la présidence du club, je me suis fixé des objectifs un peu plus tôt sur d'autres clubs et puis j'ai eu contact direct avec des membres du club qui m'ont un peu parlé de la situation du club avec l'ancien président, le comité, tout ce qui allait avec. Et on a eu quelques discussions, et puis à travers de ça, on a pu avoir aussi pu parler de chiffres aussi, c'était le plus important pour reprendre le club. Et à travers tout ça, il y avait aussi le côté de la passion du football qui est rentré dedans. Je suis quelqu'un, ça fait une quinzaine, une vingtaine d'années, je suis toujours dans le foot, je m'intéresse à tous les clubs du Chablais, de la Riviera, de Lausanne, je suis toujours derrière les actualités. Et puis quand j'ai vu l'occasion et puis la chance que je puisse reprendre le poste de président au Vevey Sport, je me suis fixé en fait le challenge de me dire il y a une occasion et une opportunité qui s'ouvre à moi, et j'ai foncé, j'ai saisi ma chance. Et j'ai eu l'occasion de reprendre ce club.
Dans quel état vous reprenez ce club, Fatline? De l'ancien président Cyril Cornu parlait de difficultés financières. Qu'est-ce que vous avez pu amener, vous, comme garantie?
Alors nous, on reprend l'association. On sait que tout le monde connaissait, il y avait une SA qui avait des difficultés financières, qui n'est pas rattachée en fait directement à l'association. Nous, on reprend vraiment l'association qui tourne depuis de nombreuses et longues années. Aujourd'hui, au niveau de l'association, nous n'avons aucun problème en fait sur les problèmes de fonds. Aujourd'hui, nous, ce qu'on apporte, c'est des nouveaux sponsors, des nouveaux partenaires qui aiment le club et puis qui veulent s'investir pour le club. C'était vraiment l'idée avant de reprendre la présidence, où je me suis penché, puis étonnamment, j'ai eu que des bons retours à travers ces sponsors, ces partenaires. Indirectement, l'ASA a un peu impacté l'association, mais comme je l'ai précisé, on n'est pas attaché à cet ASA. Ce qui veut dire, nous, on n'a pas repris en fait cet ESA aujourd'hui. On reprend vraiment l'association. Le but, c'est de retravailler avec l'association, de ramener des fonds pour l'association, ce qui est tout à fait normal en tant que président, et de faire de cette association une référence au niveau de la formation des joueurs, et pas de reprendre des joueurs qu'on paye à tous les prix. Aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir cette formation qui tourne. On a des très bonnes équipes dans les juniors, on a une bonne équipe réserve et on a une bonne équipe première avec qui on pourra travailler sur la jeunesse.
Vous parlez de ces excellentes équipes juniors qui ont eu de très bons résultats, il y a des promotions notamment. Vous avez une équipe réserve qui est actuellement en deuxième ligue. C'est idéal, ça, pour construire pour l'avenir?
Oui, alors c'est vraiment idéal. Le but aujourd'hui, c'est qu'avec cette deuxième ligue, on puisse accorder aussi la chance à des joueurs qui font partie de cette deuxième ligue de pouvoir s'entraîner avec l'équipe de promotion ligue. Ce qui est vraiment aujourd'hui, moi quand j'étais joueur, quand j'avais l'occasion de m'entraîner avec l'équipe première, ils étaient en deuxième ligue inter, c'était une grande chance, j'avais les étoiles dans les yeux. Et aujourd'hui d'avoir des joueurs en deuxième ligue, que des jeunes en plus, qui puissent s'entraîner avec la première ligue promotion, on veut travailler sur ça. C'est vraiment le but et puis la chance qu'on veut donner à nos juniors. On aimerait aussi que cette deuxième ligue monte en deuxième ligue inter pour pouvoir faciliter la transition de deuxième ligue inter à première ligue promotion pour nos jeunes. Mais on a aussi les juniors C premier degré qui ont fait une très bonne saison. On a nos B promotion qui montent en B inter. Et on a notre équipe de juniors A promotion qui a fait une bonne saison malgré des retraits de points, mais qui ont quand même gagné la Coupe Vaudoise, qui est une satisfaction pour moi aujourd'hui. Et j'espère que l'année prochaine, on aura les mêmes résultats.
Est-ce que justement, année prochaine, avec cette première équipe, est-ce qu'elle est déjà en construction, cette première équipe? Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous en dire?
Alors l'équipe, on n'a pas eu le temps aussi de voir tous les joueurs qui étaient là, voir un peu, on sait dans le monde du foot, on a beaucoup de propositions, beaucoup de choses. On n'a pas pu voir encore tous les joueurs de l'équipe première pour pouvoir discuter, voir aussi ce qu'ils voient pour le futur. Et on a aussi des joueurs qui sollicitent pour venir au club, mais qu'on a sollicité aussi aujourd'hui actuellement pour qu'ils puissent venir aussi jouer chez nous au Vevey Sport, comme j'ai précisé, avec des joueurs de la région.
Ouais, justement, vous me parliez de moyenne d'âge plutôt jeune. C'est l'idée de construire vraiment sur la jeunesse?
Oui, alors la jeunesse, vraiment, on compte sur eux parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes dans la région, déjà de Vevey, dans l'arc lémanique. On a aussi beaucoup de talents au Chablais qui sont très très bons. On peut citer plein de noms aujourd'hui, mais l'idée, c'est de regrouper le Chablais, la Riviera et un peu la région lausannoise, fribourgeoise, pour pouvoir effectuer ce mélange et avoir un très bon cocktail à la fin.
Vous aviez le projet de ramener le plus de monde possible au stade. Comment vous y prendre pour ça?
Alors le but du club pour nous aujourd'hui, c'est que c'est une association. Une association, c'est tout le monde, c'est pas qu'une personne. Tout le monde en parle des supporters. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des ultras qui sont impliqués dans le club, qui se déplacent. Et aujourd'hui, on veut aussi que les parents de nos membres, de nos juniors qui jouent, qui puissent se dire « Ah, le samedi après-midi, je peux me déplacer, je peux venir au match ». Et à travers ça, on veut travailler sur des petits événements où les gens se disent « Ah, mais j'aimerais bien venir au stade parce que la dernière fois que je suis venu, c'était top, il y avait de l'ambiance, il y avait cette cohésion en fait à travers toute la ville de Vevey qui comprend beaucoup d'habitants aussi ». On aimerait amener et doubler peut-être les spectateurs qui viennent au match les samedis pour supporter notre équipe de 1 et puis aussi pour profiter du moment qu'on peut leur proposer durant 2 heures, 3 heures de temps.
Un article complet à retrouver sur notre site internet avec le son de cloche du désormais ancien président Cyril Cornu. Place à la pub et on se retrouve pour le 5e épisode de notre série consacrée à la fête fédérale de gymnastique.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Thierry Nicolet, c'est bientôt là. C'est bientôt la fête fédérale de gymnastique, un événement qui a lieu tous les 6 ans. Et cette année, c'est à Lausanne que ça se tiendra depuis ce jeudi déjà.
Ouais, c'est déjà là.
Ouais. La vache. Et de qui on va parler aujourd'hui, parce qu'on met un petit peu la lumière sur certaines des sociétés de gym qui vont participer, parce qu'on n'aurait pas pu les faire toutes.
Ah, alors il aurait fallu commencer bien plus tôt, ça c'est clair.
Non, l'année dernière.
Il y a 6 ans. Ouais. Non, le 5e épisode d'aujourd'hui met à l'honneur la FSG, la LONA, c'est la société de Massonger. Reportage. La FSG, la LONA, est une société plus que cinquantenaire. Elle est aujourd'hui riche d'environ 190 membres et une vingtaine d'entre eux se produiront dès cette semaine à Lausanne, à l'occasion de la Fête fédérale de gymnastique 2025, le plus grand événement sportif en Suisse. Le vice-président et caissier de la société, Maxime Loretan, nous en dit plus.
En tant que caissier, c'est des frais relativement importants, je peux dire ça. Pour les jeunes, je pense que c'est une expérience qui est superbe. Avec tout ce qu'ils ont mis en place, c'est un événement qui est énorme. Et je pense que tous ceux qui vont participer vont passer un super moment.
Épaules. Souris. Rentre la tête, Lilou.